Bonsoir à tous.
Bonsoir.
On va aborder ce soir, enfin ce mardi et les deux autres qui viennent, le thème de Dieu est juste. Et avant d'aborder Dieu est juste, ou plutôt une partie du fait que Dieu est juste, je vais commencer par parler de la création. Je vais parler de la création parce que quelque part je trouve que c'est quelque chose qui a un lien avec le fait d'être juste. C'est peut-être pour ça que j'ai mis une pendule avec des engrenages, parce que derrière, je trouve qu'il y a une notion de juste. Il faut que tout soit juste pour que ça fonctionne. Et si ce n'est pas juste, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il y a d'autres éléments qui viendront là-dessus. Et en même temps, ça nous permettra de nous mettre un petit peu en perspective par rapport à Dieu, parce que c'est vrai, nous, en tant que chrétiens, on a cette chance d'avoir un Dieu qui est très proche de nous. Mais quelquefois, il est tellement proche qu'on n'y voit pas sa grandeur. C'est peut-être un peu dommage parce que justement, peut-être on se retrouve à le limiter alors que Dieu n'a pas de limite. Donc, je voulais juste rappeler ces perspectives-là et remettre ça en perspective. Et d'autre part aussi, une chose, la création ne peut pas vivre sans Dieu. Mais Dieu peut vivre sans la création. Ça reste quand même un élément aussi important qui peut aussi aider à comprendre à un certain moment le fait que Dieu, ben, il a tout intérêt à être juste, parce qu'il n'a aucun intérêt à ne pas l'être. Il n'a rien à y gagner. Et ça aussi, c'est une notion intéressante. Donc, quelques chiffres quand même. Ici, nous avons dans Genèse, au chapitre 1 et au verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Il y a un début, il y a un commencement, et c'est ce commencement-là qu'on aborde. Juste pour rappel, notre univers dans lequel on vit, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais vu celui-là et la dimension qu'il a et le peu que j'arrive à en voir moi-même, en plus je suis myope, et ça n'aide pas. Mais néanmoins, l'univers a quand même 13,7 milliards d'années, juste au passage comme ça. Il y a des chiffres, moi, qui me dépassent complètement, 13,7 milliards, enfin, je veux dire, même 13, 14 milliards, peu importe, à quelques années près, moi, à ce stade-là, ça compte plus vraiment. Et là, par exemple, pour donner une idée de la dimension de cet univers dans lequel on vit, il y aurait 2000 milliards de galaxies. Je veux dire, déjà, il y en aurait 2000, je trouve que c'est pas mal, il y en a 2000 milliards. Je trouve que c'est quand même énorme. Je ne sais pas comment ils font pour arriver à compter ça, mais 2000 milliards de galaxies. Juste dans une galaxie, il se trouve qu'il y a environ 100 milliards d'étoiles. Je rappelle que le Soleil est une étoile. Vous voyez, il y a un petit point rouge là-bas, dans cette deuxième galaxie-là. Au bord de cette galaxie-là, qui est la Voie lactée, c'est nous. Et notre système solaire, lui, aurait environ 4,5 milliards d'années. Juste pour rappel, nous, on vit entre 70 et 120 ans. Ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que quelquefois, on est en train d'essayer d'expliquer Dieu. Ça me perturbe un peu quand on remet les choses en phase. Comment est-ce qu'on peut expliquer Dieu? Et encore plus, comment est-ce qu'on peut demander des comptes à Dieu? Je veux dire, au niveau des comptes, il a affaire à des chiffres plus grands que ceux auxquels je suis habitué. Et c'est assez extraordinaire. Donc quand même, je veux dire, ça c'est quand même quelque chose de particulier. Et ça, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça tient tout ça? Je veux dire, 100 000 milliards d'étoiles dans une galaxie, et combien de galaxies déjà? 2 000 milliards de galaxies? Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, vous savez, l'homme cherche, étudie, et certains y passent leur vie pour comprendre tout ça. Parce que c'est extraordinaire. Et il découvre qu'il y a des lois d'équilibre, des lois qui régissent le fonctionnement de tout ça. Ça ne marche pas par hasard. Il y a des éléments qui font que ça fonctionne d'une certaine façon et pas d'une autre. C'est ce que Dieu a créé et c'est vraiment très précis. On sait que pour qu'il y ait de la vie chez nous, c'est pareil. il faut qu'il y ait des conditions particulières pour que la vie puisse exister. Et ça aussi, c'est un équilibre extrêmement précis. Et on voit à quel point l'équilibre peut être modifié dans le fonctionnement de notre univers proche, hein, notre Terre, quand on voit les bouleversements qu'il y a. Et on croit qu'on en est la cause, certainement qu'on en est la cause. On explique de tas de façons de comment on en est la cause. Malgré tout, est-ce qu'on sait tout ? On ne sait peut-être pas tout. Et c'est vrai qu'il y a une interaction entre tous ces éléments-là. Et croire que tout ce qui nous entoure est lié au hasard tient d'une croyance et non de la science. Nous croyons qu'il y a un créateur. Nous croyons qu'il est minutieux, que tout est juste afin que tout fonctionne comme il a prévu. Le créateur de cet univers que nous avons de la peine à concevoir en dehors des chiffres, il a pris soin de nous réserver une terre pour nous, pour que nous vivions près d'une étoile dont les conditions sont extraordinaires pour qu'on puisse vivre. Et ce créateur désire que nous le considérions comme un père. Comme un père. Pas comme un dieu, simplement, comme un père. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Il est Dieu, mais aussi un père. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est assez fabuleux, je dirais même. Alors, effectivement, de même que pour l'univers, Dieu a mis en place des lois pour que cet univers fonctionne correctement et de façon juste et précise, eh bien, il a aussi donné des lois pour que nous puissions fonctionner harmonieusement tous ensemble. Et je voudrais aborder cet aspect du fait que Dieu est juste, c'est qu'il y a obligatoirement quelque part un lien avec des lois, avec des règles de fonctionnement, des règles de comportement. Et j'aborderai effectivement cet aspect des lois où Jésus a dit ceci, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et c'est vrai que notre rapport avec les lois, je veux dire, tel qu'on a étudié notre Bible, etc., notre rapport avec les lois n'est plus tout à fait le même maintenant. Néanmoins, les lois restent toujours. Elles ne sont pas en soi particulièrement mauvaises. Et effectivement, il y a un lien entre bien vivre et respecter les lois. Notre bonheur est dépendant de ce respect-là. Dans Deutéronome, au chapitre 6, au verset 18, il est écrit ceci, « Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays de l'Éternel, que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. » Ça concerne Israël, mais on voit déjà ici l'esprit dans lequel Dieu a créé ses lois, « afin que tu sois heureux. » Qui dit « heureux » dit quand même une certaine harmonie. Un certain plaisir de se retrouver ensemble et un fonctionnement qui soit juste entre nous. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est pas négligeable. Dans le Nouveau Testament, donc, on a vu qu'il nous rappelle que ces lois ne sont pas à ignorer et qu'il y a un lien étroit entre le bonheur et le fait de connaître ce que Dieu aime afin de le respecter. Voilà ce qui est dit dans Jacques, au chapitre 1, au verset 25. « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui aura plongé les regards. Chercher, c'est quelque chose qui est important. Et effectivement, il y a une marche personnelle qui est conditionnée dans Jacques, nous dit ceci au chapitre 2 et au verset 8. « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Un peu plus loin, au verset 12 et 13, il dit ceci. « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde ?» La miséricorde triomphe du jugement. Il y a une dimension ici, une dimension supplémentaire qu'il est important à garder dans son cœur à un certain moment. Dans Jacques, au chapitre 4, au verset 17, il dira ceci: « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Voici quelques éléments que j'ai retenus dans le Nouveau Testament qui envisagent dans quel état d'esprit on doit effectivement vivre. Et Dieu est notre référence. Dans 1 Pierre, nous voyons ceci, Pierre nous rappelle l'importance des conséquences de notre rattachement à Dieu en tant que fils. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». Et il insiste sur l'importance de la parole, parole où j'ai puisé un certain nombre d'informations que je partage avec vous ce soir. Dans 1 Pierre au chapitre 1 au verset 25, un peu plus loin, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Ce n'est pas pour un temps, c'est éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été énoncée par l'Évangile. Et Dieu exerce sa justice. 2 Pierre, deuxième livre, au chapitre 2, au verset 4 à 10, il est dit ceci: « Car si Dieu n'a pas épargné, il y a une justice et derrière, quand on fait ce qui est juste, ça va, quand on ne fait pas ce qui est juste, ça ne va pas. » Voici ce que Pierre rappelle. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. » Il y a des éléments qui servent dans l'Ancien Testament pour nous prévenir maintenant. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Dieu sait faire respecter les bonnes règles de vie ensemble. Ça aussi, je crois que c'est important à un certain moment d'avoir conscience de la puissance de Dieu, de la volonté de Dieu, qu'effectivement nous vivions une vie juste et pas une vie injuste. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, l'importance des règles de vie en lien avec Jésus, Jésus rappelle, enfin, dans les évangiles, on voit ce rappel de garder les commandements de Jésus. Dans 1 Jean, au chapitre 2, au verset 3 à 4, il est dit ceci: « Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » Dans 1 Jean, un peu plus loin, au chapitre 3, au verset 4, il est dit ceci: « Quiconque pêche transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. Ça aussi, c'est une notion essentielle. Dans 1 Jean, au chapitre 3, au verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Et enfin, dans 2 Jean, au chapitre 1, au verset 6, il est rappelé cette chose si simple: « Et l'amour consiste à marcher selon les commandements. » Il y a un lien entre aimer et respecter certaines règles. C'est le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Nous sommes libres, Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Personne ne viendra m'empêcher, surtout si je suis tout seul, ne viendra m'empêcher de sauter d'une falaise. Mais je ne suis pas sûr que le résultat sera une vie abondante. J'ai peur que ça limite un peu ma vie. D'où l'importance, effectivement, de garder les commandements en tête afin de ne pas s'égarer et de ne pas se perdre. Donc, Paul nous rappelle ceci, la loi est donc sainte. Dans Romains, chapitre 7, verset 12, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et effectivement, dans l'Ancien Testament, j'y reviendrai, la loi, c'est la concrétisation de l'alliance avec Dieu et avec le peuple juif au mont Sinaï, avec Moïse. Et il était dit qu'effectivement, si le peuple respectait cette loi, il serait béni, et que s'il ne respectait pas ces lois, eh bien, il ne serait plus béni. Et il serait puni, et même le pire qui pourrait arriver, il sera exclu du pays qui avait été promis, et dans lequel il aurait été. Et les cinq premiers livres représentent effectivement ce qui est appelé la loi ou la Torah, au niveau des Juifs, donc la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, plus précisément, j'ai décidé d'aborder plutôt la loi morale de Dieu, qui est bien exprimée par les 10 paroles de Dieu, souvent appelées les 10 commandements. Et la loi de Moïse. Donc, il y a dans la loi de Moïse, il y a les 10 commandements, qu'on appelle aussi décalogue, 10 paroles. Il y a les lois morales qui sont abordées dans Exode, au chapitre 21, verset 1, jusqu'au chapitre 23, verset 19, qui régissent le fonctionnement en société des Juifs. Et puis, dans Deutéronome, il y a aussi des éléments sur les différentes années et la remise à plat d'un certain nombre de choses au bout d'un certain nombre d'années, qui sont très intéressantes. Cette dernière partie, je veux dire, en dehors des 10 paroles de Dieu, sera abordée mardi prochain. Et le mardi suivant, j'aimerais aborder comment Jésus, lui, a exprimé la vision, effectivement, de cette loi, comment nous, on devait, avec Jésus, le vivre. Et ça, j'aborderai donc le dernier mardi de ce mois. Donc, effectivement, un élément de base par lequel on commence, c'est Deutéronome, chapitre 6, au verset 5. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dieu, extérieur à tout cet univers qu'il a créé, nous engage dans une relation d'amour. Dès le départ, dès l'Ancien Testament. Quelquefois, on rejette l'Ancien Testament, c'est pas pour nous, etc. Ce qu'on est maintenant, le Nouveau Testament, je veux dire, il y a quand même des éléments qui sont issus de l'Ancien Testament. Et on ne peut pas le renier. Et quand on lit ça, effectivement, il y a des choses de base qui sont déjà établies. Déjà établies. Alors, effectivement, l'homme a rejeté Dieu. Je veux dire, Dieu a créé quelque chose de parfait, un univers qui tourne tout seul, qui marche très bien, hein, qui obéit à des lois très strictes. D'accord ? Et Dieu a créé l'homme libre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu ne peut pas décider de ce que l'homme va faire. L'homme décide tout seul ce qu'il va faire. C'est un peu là le problème d'ailleurs. C'est ce qui a créé effectivement cette discontinuité entre ce qui aurait dû être et ce qui n'a pas pu être parce que l'homme n'est pas resté dans le cadre dans lequel il devait rester. Non pas parce que ce cadre-là l'empêchait de vivre et d'être libre, c'est parce que la liberté, ça s'apprend. Nous sommes des humains, nous savons que la liberté, ça s'apprend. Nous le savons parce que nous le vivons dès notre plus jeune âge. On est obligé d'être éduqué pour apprendre à vivre. Sinon, si on est et qu'on nous laisse, on meurt. Eh bien, je veux dire, c'est pareil pour l'homme d'une façon plus générale. Et ça s'apprend, la liberté. Alors voilà, c'est qu'effectivement ce qui s'est passé. Et Deutéronome, chapitre 30, versets 5 à 6, nous dit ceci. Ça, c'est une promesse. Il y avait une réalité dès le départ, et maintenant, il y a une promesse. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Écoutez bien, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. C'est-à-dire qu'à un certain moment, effectivement, le Seigneur intervient directement dans le cœur, chose qu'on ne pouvait pas faire naturellement. Ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise, mais on reviendra là-dessus. Donc sur ces 10 paroles, il y en a une partie qui parle donc de la relation avec Dieu. Elles sont citées dans Exode au chapitre 20, au verset 2 à 17, et même plus loin, et Deutéronome au chapitre 5, au verset 6 à 21. Les 10 paroles de Dieu, les 10 commandements, le décalogue, comme vous voulez. Et cette loi a pour but de définir des règles équitables de fonctionnement entre les hommes et Dieu et entre les hommes entre eux. Les paroles suivantes que je vais aborder là immédiatement concernent la façon dont le peuple devait être en relation avec Dieu et je pourrais dire par extension un peu la relation dans laquelle nous devons être en relation avec Dieu. Un peu. « Je suis l'Éternel ton Dieu » donc au verset 2 hein, du chapitre 20 d'Exode, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu se présente. Dans un premier temps, il se présente, il dit qui il est, il dit ce qu'il a fait. Pourquoi ? Parce que là, on a un peuple qui ne connaît pas Dieu. On a un peuple qui n'a jamais entendu parler Dieu, sauf que, effectivement, il y a un Dieu qui... Si, ils en ont entendu parler par leur père, les pères de leur père, etc. Mais... ils ne le connaissent pas personnellement, directement. Ils ne l'ont pas vu agir directement dans leur vie. Ils ont passé 400 ans dans un pays qui n'était pas le leur. Et ils sont devenus esclaves. Et quelqu'un les a fait sortir de ce pays de façon miraculeuse. Dieu se présente, il se fait connaître. Dieu se présente toujours à nous. Vous avez remarqué, Dieu s'est présenté à nous à un moment donné dans notre vie. Personnellement. Pour se faire connaître, pour dire qui il est. Et je crois que ça, c'est une notion qui est importante. Donc, c'est juste. Dieu n'est pas extérieur à notre vie. Dieu entre dans notre vie. C'est juste. Il y a une vraie relation, quelque chose qui se passe. Un peu plus loin, donc, au verset 3, il dit ceci. « Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. » Il y a d'autres versions qui disent « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Et il définit une règle profonde qui correspond aussi à une vérité profonde que Dieu seul connaît, c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Sauf qu'à cette époque-là, il n'y a que lui qui est au courant. Et en plus, je dirais même à notre époque, il n'y a toujours que Dieu qui est au courant. Nous, on ne peut pas savoir s'il y a d'autres dieux ou pas d'autres dieux. C'est la foi. On croit dans la parole de Dieu. On croit que Dieu est Dieu et qu'il est le seul Dieu. Et quand on le croit, on le voit. Quand on le croit, on le vit. Mais le fait que Dieu est juste, il dit ce qui est. Et il engage les gens de façon à ce qu'ils ne s'égarent pas et ne se perdent pas loin de lui, loin du seul Dieu. Et donc il dit un peu plus loin, « Tu ne feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas d'idole, d'autres disent, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras point. » D'autres versions disent « Tu ne les adoreras point. » « Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères ou qui poursuit le crime des pères, ça dépend des versions, sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Il y a quand même une comparaison ici juste. Et il marque les choses de façon à ce qu'on sache ce qui n'est pas bien, mais il marque encore plus fort de façon à ce qu'on sache ce qui est bien. C'est quand même bien. Je veux dire, même dans l'éducation de nos enfants, on devrait noter ça. Récompenser ce qui est bien, mais ne pas oublier de récompenser ce qui n'est pas bien. Enfin, de la façon la plus adaptée qui soit possible, qu'on appelle punition. Mais c'est important. Mais la punition ne doit pas être disproportionnée. Et ça aussi, c'est que Dieu fait comme il faut. Il prépare son peuple à comprendre que sa place, la place de Dieu est dans le cœur de chacun. Il ne veut pas être simplement devant les yeux, à l'extérieur des hommes. C'est pour ça qu'il ne veut pas que ça soit des statues, des représentations, quelque chose d'extérieur. Il veut que ça soit intérieur. Il veut vivre à l'intérieur de nous. Et il veut que nous ayons conscience de sa présence. Ça, c'est juste aussi. C'est beaucoup plus juste et beaucoup plus efficace aussi quand on le vit. À chaque instant de notre vie, il peut être en nous. C'est à nous d'en être conscient. C'est pas à nous de choisir ou quoi que ce soit. C'est lui qui entre dans notre vie. Mais nous, on peut refuser d'en être conscient, on peut rester endormi, on peut dire plein de choses. Il est dit hein, au verset 7, c'est bien ça ? Je suis au verset 7. Ouais. Tu n'invoqueras point, tu ne prendras point, le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, à l'appui du mensonge, disent certaines versions. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui invoque son nom en vain, celui qui invoque son nom pour le mensonge. J'aime bien cette notion. Vous savez que l'homme est quand même tortueux. On a tendance à vouloir influencer les autres et quelquefois, quand on voit qu'on n'a pas assez d'influence, on appelle Dieu, on dit « Dieu m'a dit que ». Bon, ça c'est pour nous, ça nous concerne. Mais d'autres sont prêts, je jure sur la Bible et ils disent un gros mensonge. J'appelle ça invoquer Dieu en vain pour un mensonge. Et ça, c'est terrible. Je veux dire, Dieu ne peut pas supporter ça. Et c'est normal. C'est juste de ne pas supporter ça. Pourquoi ? Parce que s'il supporte ça, il entraîne tout le monde dans l'erreur. Et ça, c'est pas juste. Il est dit aussi un peu plus loin, cet autre aspect, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dans Deutéronome, le même passage est repris, il est rajouté ceci, tu te souviendras, Deutéronome 5,15, tu te souviendras de ce que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer ce jour du repos. En ce qui nous concerne, je trouve intéressant, ce commandement nous rappelle que le travail qui met Dieu à la dernière place ne sera jamais la volonté de Dieu. D'autre part, Dieu veut que son peuple ait la possibilité de se retrouver ensemble pour l'honorer, l'adorer, pour la fête. C'est une fête de se retrouver ensemble et d'adorer Dieu. Vous n'avez pas l'impression parfois qu'effectivement le culte aussi, que nous vivons ensemble, c'est une fête ? Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est la volonté de Dieu qu'on ait cette vie harmonieuse entre nous, avec lui. Et que lui ne soit pas exclu de nos fêtes. Bien loin de là. Et il veut être dedans. Et Deutéronome, je trouve intéressant, rappelle où était son peuple avant. Il l'a tiré de l'esclavage de l'Égypte. Je crois que, est-ce que Dieu ne nous a pas tirés de l'esclavage dans lequel nous étions ? Je crois que c'est important qu'on ait conscience de ceci aussi. C'est que nous ne sommes plus esclaves. Et nous ne sommes pas esclaves de Dieu. Nous appartenons à Dieu, mais nous ne sommes pas esclaves de Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, dans la suite, les paroles suivantes vont parler un peu des relations avec notre prochain. Donc ça, c'était Deutéronome. Dieu dit ceci, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. » D'autres versions disent, « Et que tu sois heureux, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Honore tes parents. Peut-être vous avez des conflits avec vos parents. Vos parents ne sont peut-être pas parfaits. Mais vous, vous l'êtes. Non? Dans ce cas-là, peut-être qu'il faut diminuer un peu l'impression que vous avez que leur imperfection a causé sur votre vie une catastrophe. Peut-être qu'il faut voir les choses un peu autrement. Surtout si vous êtes avec Dieu. C'est-à-dire, qu'il y ait eu des catastrophes avant, ok. Mais puis maintenant, vous êtes avec Dieu. Dieu est là. Et je crois que c'est important d'avoir effectivement cette notion d'honorer ses parents. Je crois que c'est important. C'est important pour soi, c'est important pour les parents. Et vous savez, quelque part, quand on honore les parents et quelque part qu'on pardonne, eh bien, il y a des conséquences derrière. L'amour manifesté reste toujours un bénéfice pour nous. Toujours. Bien sûr, peut-être vos parents ne le verront pas. Peut-être vos parents ne comprendront pas ce que vous êtes en train de faire. Peut-être ils douteront, se disant, après tout le mal que je lui ai fait, qu'est-ce qu'il est en train de me préparer? Peut-être ils n'ont pas changé. Et ils vous analysent comme ils sont. Mais ce n'est pas ça qui est important. Qui s'occupe de vos parents? Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Dieu veut bénir ceux qui respectent leurs parents. Jésus en parlera plus tard, j'en parlerai à la fin de ce mois, sur les excuses qu'on peut donner. Donc, Dieu, effectivement, ici, promeut la solidarité intergénérationnelle. Et je crois que ça, c'est important aussi. Ensuite, il dit des choses qui sont, je crois, d'un caractère assez évident pour la plupart d'entre nous. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est évident pour nous, mais je crois que dans ce monde actuel, ça n'a pas l'air si évident que ça. Je crois qu'il y a quand même la notion de fidélité ne semble pas être aussi bien accrue de nos jours qu'elle est émise ici. Tu ne déroberas point. Vous savez, quelquefois, je crois qu'on a une certaine facilité même à dérober. Un crayon par-ci, une gomme par-là. Attendez, je ne veux pas vous accuser, vous faire sentir mal à l'aise. Je dis simplement l'état naturel dans lequel on est. Je me suis aperçu qu'autrefois, j'ai fait ce genre de choses. Maintenant, je fais attention. Je me dis, mais ce n'est pas bien. Il n'y a pas de conséquences obligatoirement désastreuses, mais dans mon cœur, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien parce que, effectivement, le Seigneur a commencé à changer ma façon de penser. Il a commencé à changer tout ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas harmonieux. Je veux dire, c'est cette notion de respecter ce qui appartient au prochain. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, bien sûr, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Il est évident que mentir au sujet de son prochain, ce n'est pas bien. Mais vous savez quoi? Quelquefois, on propage des rumeurs dont on ne sait pas si les bases sont vraies. Là, dans ce cas-là, c'est peut-être un peu mentir, non? Et je crois qu'il faudrait qu'on fasse attention. Hein. Je veux dire, il faut quand même vérifier ses sources. Vous savez, en plus, on est dans un monde actuel où les rumeurs se diffusent à une vitesse. C'est impressionnant. C'est merveilleux de voir à quel point on peut communiquer rapidement dans ce monde. Ce qui est dommage, c'est que c'est moins merveilleux le contenu. Et faisons attention. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a besoin de répéter? Un. Deux, est-ce que les choses qu'on répète sont vraies? Trois, et si on les répète, est-ce qu'on est en train de faire une bonne action ou est-ce qu'on ne devrait pas aller voir plutôt la personne concernée? Bon, je vous laisse avec toutes ces réflexions, hein. Mais je crois que c'est ce qui est contenu ici. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je veux dire, ça dépasse aussi la justice et la vie de tous les jours. Enfin, et je terminerai bientôt, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, d'autres versions disent son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et là, Dieu met les choses sur un autre plan. Tu ne convoiteras pas. Tu ne désireras pas. Vous savez, bon, je vais vous le dire par rapport aux enfants, vous allez comprendre très vite. Oui, mais chez un tel, chez lui, il peut faire ça. Et moi, je ne peux pas. Oui, mais lui, il a un vélo et moi, j'en ai pas. Bon, alors, vous imaginez quand on devient adulte, puis qu'on grandit pas vraiment dans sa tête, à quelles les proportions que ça prend. Donc, effectivement, convoiter, c'est quand même, je veux dire, vous savez quoi, ça veut dire on oriente son cœur dans une direction. À votre avis, est-ce que c'est Dieu? Tu aimeras ton Dieu, je veux dire, ça passe un peu à l'as à ce moment-là. Hein. J'aime surtout la voiture de mon voisin, j'aime la maison de mon voisin, j'aime la femme de mon voisin. Comment est-ce qu'on peut développer une vie harmonieuse avec ça? Donc évidemment, je veux dire, entre nous, ça nous fait rire, mais est-ce que ça n'explique pas pourquoi le monde est si troublé actuellement? Que l'homme n'arrive pas à respecter ça. L'homme n'arrive pas à rentrer là-dedans. La semaine prochaine, on aura l'occasion d'aborder un peu plus en détail tous les éléments pratiques de l'application de cette loi qui était prévue. Je pense que ce sera intéressant de voir que finalement, si tout pouvait se réaliser, c'est fabuleux de pouvoir vivre comme ça. Eh bien, je crois que Dieu avait vraiment cette vision que nous puissions vivre de façon harmonieuse les uns avec les autres. Alors, effectivement, toutes ces paroles nous présentent ce que Dieu considère juste comme comportement envers lui et entre nous. Dieu est juste, il nous enseigne pour que nous ayons nous aussi une attitude juste. Soyez saints comme je suis saint. Il n'est pas juste seulement dans les relations, mais aussi dans la ponctualité et l'exactitude du fonctionnement de l'univers. Et heureusement. Si l'univers était chaotique, il ne pourrait pas y avoir de vie. Et il est juste aussi quand il intervient dans nos vies. Son timing est toujours parfait. Voilà ce qui est intéressant. Seigneur, merci pour tous ces éléments-là. Merci vraiment de ce que tu nous as laissé en héritage, Seigneur, toutes ces références auxquelles on peut aller voir, Seigneur, et qui nous empêchent d'être complètement perdus, Seigneur, et ne pas savoir quoi faire. Tu as donné toute ta parole, Seigneur. Et nous voulons effectivement aborder toute ta parole, mais pas avec notre analyse humaine, mais avec l'éclairage de ton Esprit Saint, Seigneur. Que tu nous puisses nous donner vraiment tous ces éléments qui nous permettent de prendre dans cette parole tout ce qui va nous permettre de nous rapprocher de toi et mieux te comprendre et mieux te connaître et mieux vivre avec toi et entre nous. Merci, Seigneur. Amen.
Amen.